Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui le dimanche du bon pasteur. Et l'Église nous demande évidemment d'insister sur la miséricorde du bon Dieu, miséricorde infinie du bon Dieu, qui aime tout particulièrement les pécheurs repentants. Pour cela qu'il est bon pasteur. Et mon pasteur n'est pas simplement un bon pasteur à l'égard des bonnes brebis, des brebis obéissantes, respectueuses, qui suivent bien les lois imposées, demandées par le pasteur. Un pasteur est bon pasteur dans la mesure où il s'occupe surtout des brebis récalcitrantes, des brebis révolutionnaires, des brebis qui veulent en faire qu'à leur tête et qui ne suivent pas les ordres du berger. Et c'est comme ça qu'on peut voir si un pasteur est un bon pasteur. Si le pasteur laisse tomber immédiatement les brebis récalcitrantes, ne s'en occupe pas et ne s'occupe que des brebis qui sont gentilles et qui suivent facilement les ordres, ce pasteur est un mercenaire. Il n'y a pas de cœur. Si au contraire, le pasteur s'occupe tout particulièrement des brebis difficiles, des brebis qui ne veulent pas obéir, c'est là qu'on voit que nous avons affaire à un bon pasteur. Et notre Seigneur Jésus-Christ est le bon pasteur. Pourquoi est le bon pasteur? Parce que précisément, il s'occupe d'abord et surtout, des âmes qu'il a créées, qui ne veulent pas de lui. C'est facile pour le bon Dieu de dire à toutes les personnes qui le refusent, en disant « Débrouillez-vous, je ne m'occupe plus de vous, puisque vous ne voulez pas vous occuper de moi, je vous laisse tomber, allez en enfer. » Notre Seigneur Jésus-Christ manifeste son amour surtout pour les pasteurs, pour les pécheurs difficiles, les pécheurs qui ne veulent pas se convertir. On voit comment notre Seigneur Jésus-Christ s'apitoie littéralement sur ceux qui ont plus de difficultés à le suivre. Notre Seigneur Jésus-Christ a plus d'amour, je dirais, littéralement, pour un pécheur qui doit revenir vers lui et qui a du mal à le faire, que pour une âme qui n'a jamais eu la moindre difficulté à suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort d'abord pour les pécheurs, c'est ce qu'on obéit tout le temps. Et notre Seigneur Jésus-Christ est obligé d'utiliser davantage sa miséricorde avec ceux qui sont en révolte qu'avec ceux qui suivent facilement notre Seigneur. C'est là qu'il faut comprendre dans le mot « bon pasteur ». Donc tous les soirs, le pasteur compte ses brebis et s'il voit qu'il en manque une, eh bien il lâche tout pour aller s'occuper de celle qui s'est sauvée. Et notre Seigneur Jésus-Christ va passer plus de temps, encore une fois, avec les brebis difficiles pour justement les ramener vers notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour bien le faire comprendre cela, l'Évangile va rajouter une deuxième chose, un deuxième point très important. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ tient-il tant à ramener les brebis difficiles vers lui? Parce qu'il n'y a qu'un seul troupeau et qu'un seul pasteur. C'est-à-dire, si au soir du jugement, la brebis n'est pas dans le bon troupeau, elle ne peut pas aller au ciel, c'est impossible. S'il n'y a qu'un seul Dieu, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul pasteur. Puisqu'il n'y a qu'un seul pasteur, il n'y a qu'une voie de salut hors de laquelle personne ne peut être sauvé. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est donc pas un des noms par lesquels on puisse être sauvé, c'est l'unique nom par lequel nous puissions être sauvés. Il faut se rappeler ceci. Hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut parce que personne ne peut être sauvé sans utiliser le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut pas y avoir de valeur de salut dans une fausse religion. Même dans une fausse religion qui a des sacrements valides. Attention. Un orthodoxe, par exemple. L'orthodoxie est une fausse religion qui a des sacrements valides. Vous rentrez dans une église orthodoxe, il y a présence réelle, attention. Eh bien, même si il y a présence réelle, on ne peut pas se sauver dans l'orthodoxie parce que, justement, on ne peut pas se sauver hors de l'Église catholique, une sainte catholique et apostolique fondée par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et à cause de cela, il importe, et c'est le troisième point important de message que notre Seigneur nous donne par l'Évangile d'aujourd'hui, il importe non pas simplement de garder les brebis qui sont dans le bercail, mais dit notre Seigneur Jésus-Christ, d'aller chercher les autres brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. J'ai déjà insisté là-dessus dimanche dernier, mais je réinsiste parce que ça me semble extrêmement important de bien comprendre que le bon Dieu demande à ceux qui sont dans le bercail, non seulement d'y rester, bien sûr, non seulement de trouver dans le troupeau, avec le bon berger, les pâturages dont ils ont besoin pour se maintenir en vie spirituelle, mais il y a un devoir grave pour le pasteur et les brebis d'aller aussi à la recherche de ceux qui sont perdus hors du troupeau. Ne pas se contenter de dire, je suis dans le bon troupeau, j'y reste et ça suffit, j'ai rempli mon devoir d'État. Non. Notre Seigneur Jésus-Christ nous demande justement d'aller chercher justement les autres brebis qui ne sont pas dans ce troupeau pour qu'un jour il n'y ait plus qu'un seul troupeau, un seul berger, un seul bercail. Et on voit très bien que là, notre Seigneur Jésus-Christ veut parler de l'apostolat missionnaire, du zèle missionnaire, du zèle apostolique. On peut dire qu'une église est en train de perdre sa raison d'être justement quand elle perd son zèle missionnaire. Quand une église ne cherche plus à convertir, c'est qu'elle n'a plus la conviction qu'elle est la vérité. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Il n'a pas dit « Je suis une des voies, une des vérités, une des vies possibles, je suis l'unique vérité ». Alors, puisque nous avons compris cela, puisque le bon Dieu nous a donné la grâce du baptême, puisque le bon Dieu nous a donné la grâce de conserver la foi, ce qui est une grâce insigne, surtout pour les temps qui courent, puisque le bon Dieu nous a donné la grâce de conserver la foi, cette grâce qu'il nous a donnée, c'est une grâce absolument gratuite, attention. Le bon Dieu ne nous a pas conservé la foi parce que nous avons plus mérité que les autres, attention. La foi est gratuite. C'est un don gratuit de Dieu que Dieu donne à qui l'entend. Il ne faut pas croire que c'est parce que telle personne a eu des mérites extraordinaires que le bon Dieu lui accorde la grâce de la fidélité. La grâce de la fidélité, Dieu la donne à qui il veut. Alors il faut la demander avec humilité. Et si nous avons eu la grâce de la fidélité à la foi catholique, si nous avons compris l'importance du combat actuel pour la foi, si nous avons compris l'importance de rester dans l'Église catholique et de se détacher bien sûr de l'Église conciliaire qui n'est pas l'Église catholique, eh bien il faut remercier le bon Dieu. Et il ne faut pas se contenter de remercier le bon Dieu pour cela, il faut à ce moment-là essayer de transmettre ce qu'on a reçu. Comme des parents qui ont conservé la foi, ils se doivent de transmettre la foi catholique à leurs enfants et de vérifier qu'ils la gardent. Et leur donner les moyens pour qu'ils puissent la garder pendant toute leur vie, à transmettre à leurs enfants, aux futures générations. C'est la même chose pour nous. Est-ce que je suis convaincu de cela? Parfois, je pose la question à des fidèles qui viennent souvent chez nous, parfois depuis des années et des années. Et je leur demande, mais depuis que vous venez à la messe ici, ça fait parfois 10, 15, 20 ans que vous allez à la messe traditionnelle depuis très longtemps, parce que vous avez reçu cette grâce de la foi. Combien de personnes avez-vous amené ici? Combien de personnes avez-vous, dans le monde extérieur, essayé de leur expliquer l'importance de ce combat pour qu'ils puissent venir nous rejoindre et aussi sauver leur âme? Et beaucoup de gens, parfois, nous répondent, monsieur l'abbé, c'est impossible. On ne peut plus être missionnaire par les temps qui courent. Alors, attention, le zèle missionnaire est une conséquence de la vertu de charité. Si je n'ai pas de zèle missionnaire, c'est que je n'ai pas la vertu de charité en moi. C'est la conclusion de l'évangile d'aujourd'hui. Le bon Dieu nous dit bien, attention, il y a beaucoup de brebis qui sont en dehors du troupeau et le bon Dieu, le pasteur, veut aller les chercher pour qu'elles reviennent dans ce troupeau, pour qu'elles viennent dans le véritable troupeau afin qu'elles aussi puissent être sauvées. Si quelqu'un garde les trésors qu'il a reçus, ne cherche pas à le partager ce trésor. C'est un égoïste. Alors posons-nous la question, est-ce que j'ai un zèle missionnaire? Est-ce que par ma façon de me comporter, par ma façon de m'habiller, ma façon de me comporter dans mon milieu social, familial ou autre, est-ce que j'attire les âmes vers le bon Dieu? Est-ce que les gens qui me voient peuvent se dire, se douter, oui, cette personne est catholique? C'est un point qui me semble extrêmement important, peut-être dont on ne parle pas assez aujourd'hui. Ne pas considérer, j'en ai déjà parlé dimanche dernier, j'en parle aujourd'hui parce que c'est le sujet de l'évangile d'aujourd'hui, ne pas considérer que notre devoir est simplement de garder le troupeau. Il faut augmenter ce troupeau. Le Seigneur Jésus-Christ nous a prévenu que ce serait un grand combat, puisqu'il a dit à la fin des temps, quand je reviendrai, qui sait, si je trouve encore la foi. Il a parlé d'un petit troupeau. Donc, posons-nous la question, qu'est-ce que je dois faire pour essayer d'amener les autres près de moi? Est-ce que je dois amener les autres à l'Église? Je vous donne un point, un exemple tout simple, tout bête, qui m'a beaucoup frappé. J'étais en Pennsylvanie, j'étais allé visiter des amis, Amis de notre paroisse, j'allais chez eux une fois par mois pour leur donner la messe. Et c'est une famille très nombreuse, ils ont eu 17 enfants. Et un jour, un soir, il y avait une fuite d'eau dans la salle à manger, dans la cuisine. Et donc le papa a appelé un plombier pour venir réparer la fuite. Et puis le papa était là, le plombier est venu dans la soirée pour réparer la fuite d'eau. Puis le papa était à côté de lui pour l'aider un petit peu dans son travail. Puis à un moment, il s'arrête et il dit « Excusez-moi, je vous laisse finir tout seul parce que c'est échappé de la famille. » Et donc il est dans la pièce à côté, dans la salle à manger avec tous les enfants, son épouse. Et ils ont commencé à dire le chapelet. Et la porte était ouverte, l'ouvrier qui continuait de faire son travail a terminé la réparation du tuyau qui fuyait. Et puis il entendait ce chapelet, il est resté à la porte et puis il a interrompu, « Est-ce que je peux me joindre à vous ?» Les parents disent, « Bien sûr, venez. » Et il a essayé de retrouver son entrepère, son Marie, il était catholique, il avait bien oublié beaucoup de choses. Mais il a été tellement marqué par ce chapelet simplement qui était dit en famille que ça l'a ramené à la foi catholique. Et il a fait une confession générale à ma prochaine visite, à ma visite suivante, et avec la grâce du bon Dieu, il est revenu complètement vers le bon Dieu. Et ensuite, à la suite de ça, cette personne a commencé à faire du travail apostolique dans la ville dans laquelle il vivait. Elle a même pu fonder une petite chapelle dans cette ville pour justement essayer d'aider un peu ces gens qui étaient très isolés. Tout ça à cause de l'esprit missionnaire, l'esprit missionnaire de cette personne. Donc posons-nous cette question, il est important de nous la poser, ai-je cet esprit missionnaire? Est-ce que je cherche à transmettre ce que j'ai reçu? Qu'est-ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ aux apôtres? Allez, prêchez, baptisez. Il n'a pas dit restez ici, protégez le petit troupeau qui vit ici, allez, prêchez, baptisez. Celui qui sera baptisé, qui aura la foi et sera baptisé sera sauvé. Celui qui n'aura pas la foi sera condamné. Comment pouvons-nous accepter de voir la condamnation générale pratiquement à tous les gens autour de nous sans chercher à les amener vers l'unique bercail, vers l'unique vérité, vers l'unique voie, l'unique chemin qui mène à notre Seigneur Jésus-Christ? Et c'est, je crois, la grâce qu'il nous faut demander. Demandons au bon Dieu l'esprit missionnaire. Encore une fois, lorsqu'une église, lorsqu'une chapelle, je dirais, perd l'esprit missionnaire, ne cherche plus à convertir les gens, à ce moment-là, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Les plus grandes joies que j'ai avec la prédication des exercices Saint-Ignace ici, nous avons à peu près 150 retraitants par an, la moitié d'entre eux ne sont pas des catholiques. La moitié d'entre eux sont des gens qui n'étaient pas catholiques il y a encore quelques années, qui, avec la grâce du bon Dieu, sont venus ici. Et ces gens qui se convertissent, qui ont découvert la foi catholique ici avec la grâce du bon Dieu, ils n'ont qu'une idée en tête, je le vois très bien, c'est de parler des retraites à d'autres personnes, pour faire venir d'autres personnes. Et qu'on ne vient pas me dire, encore une fois, ce que j'ai entendu beaucoup trop souvent, et je ne veux pas de fidèles comme ça, hein, c'est-à-dire qu'ils me disent, même chez l'abbé, vous faites venir trop de non-catholiques dans cette chapelle. Trop de gens qui ne pratiquent pas dans cette chapelle, on va se faire contaminer. Eh bien, nous allons les contaminer. Il faut prier, bien sûr, pour qu'ils ne nous contaminent pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est à nous, justement, de les contaminer dans le bon sens, de leur montrer ce que c'est qu'une chapelle catholique, de leur montrer ce que c'est qu'une famille catholique, de leur montrer ce que sont des gens catholiques, des familles catholiques qui vivent leur foi catholique, pour que, justement, notre Seigneur Jésus-Christ puisse régner dans ses âmes. Il s'agit du salut des âmes qui est en jeu. S'ils ne découvrent pas notre Seigneur Jésus-Christ, s'ils restent vautrés dans le monde moderne, avec toutes les vices du monde moderne, ils vont se perdre. Malheur à celui qui pouvait faire quelque chose pour empêcher le voisin de se perdre et qui n'a rien fait. Malheur au médecin qui pouvait soigner les autres et qui a refusé de les soigner par égoïsme. Alors demandons, mes bien chers frères, en ce début du mois de mai, demain c'est le 1er mai, fête de Saint-Joseph. C'est le mois de la Très Sainte Vierge Marie. La grande missionnaire du ciel, c'est la Très Sainte Vierge Marie. C'est elle justement qui amène à son fils les âmes qui sont égarées, c'est le rôle de notre Sainte Vierge Marie. C'est pour cela que le bon Dieu a mis au pied de la croix la Sainte Vierge. Pourquoi? C'est pas pour rien. Parce qu'il sait justement que la croix est quelque chose de pénible, quelque chose de difficile à contempler, à regarder, à méditer. Alors il a mis au pied de sa croix, alors qu'il est en train de mourir pour nous sur la croix, il a mis au pied de sa croix Justement, la créature la plus douce qu'il ait jamais créée. Il a mis à la Sainte Vierge Marie, et il a bien dit à la Sainte Vierge Marie, « Mère, voici votre fils, en désignant Saint Jean. » Et Saint Jean, c'est l'Église. Alors, il faut, mes bien chers frères, utiliser pendant ce mois de mai, utiliser cette dévotion à la Sainte Vierge Marie qui doit être au fond de chaque cœur, du cœur de chaque chrétien, pour que justement nous puissions amener aussi au pied de la croix les âmes réticentes, les âmes qui hésitent, les âmes qui n'osent pas s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour qu'il y ait bien sûr un jour un seul troupeau et un seul pasteur. Et l'Église a choisi justement pour accompagner ce texte de Saint Jean, donc le texte du bon pasteur, l'Église a choisi un texte de Saint Pierre. Et Saint Pierre nous explique bien justement que le Christ a porté lui-même nos péchés en son corps sur la croix. Et donc, puisque le Christ a porté nos péchés, c'est lui qui prend le poids. Et donc, puisque notre Seigneur Jésus-Christ a porté nos péchés devant nos péchés sont moins lourds sur nos propres épaules, nous pouvons plus facilement suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous ne voulons pas faire pénitence pour nos péchés, bon Dieu fait pénitence pour nous. Comme nous ne voulons pas nous reconnaître pécheurs, le bon Dieu va agir, si vous voulez, en prenant le poids du péché sur ses propres épaules pour nous amener à la croix, nous amener à la conversion. Donc il ne faut pas oublier ce que dit Saint Pierre, que ce sont ses plaies, les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous ont guéris. Donc l'esprit missionnaire, d'où prend-il sa source? L'esprit missionnaire prend sa source dans les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. L'esprit missionnaire prend sa source dans les plaies de notre Seigneur Jésus-Christ qui sont sur la croix. Et où trouve-t-on la croix? La croix, c'est la messe. La messe n'étant rien d'autre que le renouvellement non sanglant du sacrifice de cette croix, le sacrifice du calvaire. Donc c'est au pied du calvaire, au pied de la messe, au pied de la croix, que nous trouverons les forces à pratiquer ce zèle missionnaire. Et il faut, c'est triste, c'est vraiment triste parfois de voir que nos fidèles qui ont compris l'importance de ce zèle missionnaire sont pratiquement tous des convertis. Et par contre, ceux qui ont eu la grâce, son étude, d'avoir la foi catholique depuis le berceau, littéralement, ne comprennent pas cette importance. L'autre exemple que je peux vous donner, c'est encore une fois des exemples pour vous aider à comprendre l'importance de ce que je vous dis là. Quand j'ai été nommé dans une maison de retraite pour prêcher l'exercice à New York pendant longtemps par Mgr Lefebvre, autant j'étais dans la fraternité Saint-Pilis, eh bien, la première retraite que nous avons donnée, nous avons une protestante qui est venue. Une jeune protestante qui avait à l'époque 20 ou 21 ans. Elle s'est convertie le troisième jour de la retraite. Elle a demandé le baptême le troisième jour de la retraite. J'ai refusé parce que je ne la connaissais pas suffisamment. Je voulais être sûr qu'elle persévère. Je lui ai dit, je vous baptiserai à votre deuxième retraite. Neuf mois plus tard, elle est revenue faire sa retraite. Je l'ai baptisée en fin de retraite. Elle avait compris l'importance parce qu'elle venait du protestantisme. Elle a commencé un travail apostolique absolument incroyable. C'est grâce à elle qu'on a pu démarrer toute la maison de retraite. Et toute la maison de retraite, on avait presque 800 traitants par an, grâce à elle au début. Il y a une autre personne qui venait de l'Ontario, dans le Canada, il est venu faire la retraite, parce que c'était pas très loin de la frontière canadienne. Il découvre la retraite, il découvre les exercices Saint-Ignace, il est tellement emballé, il me dit, monsieur l'abbé, je rentre chez moi, je vous envoie tous les adultes de la paroisse. Il est rentré chez lui, il est allé faire du porte-à-porte chez tous les adultes de la paroisse, il les a tous envoyés, il n'y a pas un qui a manqué à l'appel. La paroisse a complètement changé. Il allait à une messe traditionnelle, certes. Et ceci nous aide à comprendre, le bon Dieu nous demande d'avoir cet esprit missionnaire, et la source de cet esprit missionnaire, évidemment, c'est justement le fait que notre Seigneur Jésus-Christ est pasteur. Donc il veut une seule chose, le plus d'âmes possible dans son troupeau. Mais ce n'est pas lui qui fait tout le travail. Il a des coopérateurs, il a des gens qui vont l'aider à amener les âmes vers le troupeau. Alors ayez, mes bien chers frères, ces âmes missionnaires. Tous ceux qui ont déjà fait les exercices ici, ayez cette zèle missionnaire, utilisez les feuilles jaunes des retraites justement pour en parler un petit peu autour de vous, avec prudence certes, avec sagesse, pour justement amener les hommes et que d'autres âmes puissent venir bénéficier aussi de la grâce, d'une bonne confession générale, retrouver la grâce du bon Dieu, retrouver le chemin qui mène à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que notre Seigneur Jésus-Christ entre encore une fois l'unique chemin qui mène au salut. Alors nous demanderons toutes ces grâces, mes bien chers frères, par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie. C'est ce mois qui arrive, le mois de mai, le mois de Marie. Demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre ces choses-là, à les mettre dans le cœur de nos enfants, à donner à nos enfants cet esprit missionnaire. Si nos enfants n'ont pas cet esprit missionnaire, ils vont perdre la foi, c'est absolument évident. Puis quand on a l'esprit missionnaire, on comprend très vite que la première condition pour avoir l'esprit missionnaire, c'est d'être soi-même rempli du bon Dieu. Si je ne suis pas moi-même rempli du bon Dieu, si le cœur n'est pas, non, mon cœur n'est pas rempli de l'amour du bon Dieu, comment vais-je pouvoir prêcher aux autres? C'est impossible. Et donc les enfants vont comprendre très bien, je dois d'abord être en état de grâce pour pouvoir être un missionnaire et amener les âmes au bon Dieu. Nous demanderons toutes ces grâces à notre Sainte Vierge Marie. N'oubliez pas, au moins pendant le mois de mai, de bien réciter votre chapelet tous les jours, si possible en famille, pour que justement les âmes puissent entendre cet appel du bon Dieu sur la croix, j'ai soif. Ça veut dire ce mot, j'ai soif, sitio. J'ai soif d'âmes qui viennent ici à la croix. Quand je me suis levé sur la croix, je tirerai tout à moi, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je serai élevé de terre, je tirerai tout à moi. Ce j'ai soif doit retentir dans le cœur de chaque chrétien, c'est pas simplement pour nous. J'ai soif, dire j'ai soif d'âmes qui viennent vers notre Seigneur Jésus-Christ, qui viennent vers ma croix, pour pouvoir justement par cette croix trouver le chemin qui mène au ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.